Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue, chers amis auditeurs. Bienvenue, Bernard.
Oui, bonjour, Dominique.
Pour partager ensemble cette leçon numéro 5 de l'école du sabbat qui couvre la semaine du 25 au 31 juillet 2009.
Et elle a pour titre « Marcher dans la lumière », c'est-à-dire « Renoncer au monde ».
Et le verset à mémoriser est celui de la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15.
« N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et les questions clés ?
Au nom de quoi ou de qui nos péchés sont-ils pardonnés ? Que signifie aimer Dieu ? Que signifie ne pas aimer le monde ? Et quel sera le sort ultime du monde ?
C'est en 1933 que l'écrivain français André Malraux a publié « La condition humaine », un ouvrage qui raconte l'échec d'un soulèvement marxiste à Shanghai, dans la Chine des années 1920. Dans ce récit, un terroriste marxiste, Chen, alors qu'il est sur le point de commettre un attentat politique, rencontre dans la rue un pasteur qui a été son premier enseignant. Commence alors entre eux une conversation autour du fait que le jeune homme aurait perdu la foi. Mais Chen se défend d'avoir perdu la foi. Il l'a simplement placé dans la politique, voilà tout.
Quelle foi politique est capable de détruire la mort ? Demande alors avec tristesse son ancien maître. En d'autres termes, quelles que soient vos idées politiques, quel que soit le monde utopique que vous voulez créer, rien ne pourra jamais vaincre le plus grand fléau de l'humanité, c'est-à-dire la mort. Tout en continuant de nous expliquer ce que signifie « marcher dans la lumière », le texte de cette semaine souligne que notre monde est éphémère, contrairement à la vie éternelle qui ne se trouve qu'en Dieu.
Eh bien, nous abordons maintenant l'étude de cette semaine avec la journée du dimanche 26 juillet 2009 et elle a pour titre
« À cause de son nom ».
Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous trouvons ce texte dans
1 Jean chapitre 2 verset 12.
Et dans 1 Jean chapitre 2, les versets 12 à 15 que nous allons étudier cette semaine, Jean s'adresse aux enfants, aux pères et aux jeunes gens. Diverses explications ont été avancées concernant cette classification. Mais nous pensons que les enfants représentent tous les membres d'Église, parce que c'est dans ce sens que Jean utilise le terme « ailleurs » dans son épître. Les pères sont probablement les membres les plus âgés, et les jeunes gens, les membres les plus jeunes. En bref, Jean écrit à tous.
Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12, il dit à tous les membres que leurs péchés sont pardonnés. Nous allons voir sur quoi est basé ce pardon et pourquoi il est si important pour les chrétiens de savoir que leurs péchés sont pardonnés. Lisons à ce sujet quelques textes et prenons tout d'abord Actes chapitre 5, verset 31.
Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous continuons avec l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 32.
« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Et prenons encore le texte de Colossiens, chapitre 2, verset 13.
« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. »
Jean veut que ses lecteurs, c'est-à-dire les membres d'Église fidèles, aient l'assurance absolue d'être sauvés. Il fait allusion à ce qu'il a déjà déclaré auparavant sur le péché, en soulignant qu'être chrétien, c'est être pardonné. Le chrétien ne nie pas qu'il est pécheur, mais il a accepté le salut par Jésus-Christ et il vit donc avec cette assurance d'être pardonné.
Il est essentiel pour les chrétiens de comprendre que leur salut ne se trouve qu'en Jésus et en ce que Jésus a fait pour eux. C'est pourquoi Jean dit que les chrétiens sont pardonnés, non pas grâce à leurs bonnes œuvres, non pas grâce à leur croyance, ni même grâce à la connaissance qu'ils ont de Dieu, mais à cause de son nom, c'est-à-dire sur la base de ce que Jésus est et de ce qu'il a accompli pour les hommes. Ainsi, au beau milieu de son discours sur la victoire et l'obéissance, il rappelle avec insistance aux membres d'Église que le salut ne leur est accordé que grâce à Jésus.
Et nous sommes invités à méditer à présent cette fin de journée. N'est-il pas important pour nous de savoir que nos péchés ont été pardonnés? Où en serions-nous aujourd'hui si nous en doutions? Pourquoi ne devons-nous jamais oublier que la source de notre pardon se trouve en Jésus et non en nous-mêmes?
Nous poursuivons cette étude avec le lundi 27 juillet 2009 et aujourd'hui nous aurons pour titre
« Vous avez vaincu le mauvais ».
Nous allons lire dans 1 Jean 2 les versets 13 à 14 et nous allons voir ce que signifient ces versets pour nous et quel message positif ils nous délivrent et comment ensuite les appliquer dans notre vie. Alors nous commençons 1 Jean 2 et le verset 13 tout d'abord.
« Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. » Et continuons avec le verset 14.
« Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. » et que vous avez vaincu le malin.
Jean rappelle à ses enfants qu'ils connaissent le Père. Quand il dit au Père qu'ils connaissent celui qui existe depuis le commencement, il parle évidemment de Jésus. C'est ce qui ressortait déjà dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, où la formule « ce qui était au commencement » se rapportait aussi à Jésus. Mais dans les versets qui nous intéressent ici, cela semble encore plus cohérent. Du fait que le Père est celui qui était dès le commencement. Jésus sont deux personnes bien distinctes.
Jean s'adresse par deux fois aux jeunes gens, et lorsqu'il répète la phrase « Vous avez vaincu le mauvais », il développe l'idée qui est sous-jacente, c'est-à-dire ces jeunes gens n'ont pas seulement vaincu le mal, mais Satan lui-même, parce qu'ils appartiennent au Christ et qu'ils se réclament de sa victoire. D'après ce texte original, la victoire a été remportée dans le passé, mais les conséquences sont toujours présentes. En outre, ces jeunes gens sont spirituellement forts et la parole de Dieu demeure en eux.
L'expression « parole de Dieu » renvoie à l'auteur de cette parole, le Saint-Esprit. C'est pourquoi certains commentateurs ont suggéré que ces deux versets faisaient implicitement référence à la Trinité, Dieu, le Père, Jésus, celui qui était depuis le commencement, et le Saint-Esprit, représenté par la parole de Dieu. Toujours est-il que les vrais croyants sont parvenus à la connaissance de Dieu et continuent de le connaître, c'est-à-dire qu'ils ont avec lui une relation intime.
Ainsi, ces versets nous révèlent l'essence même de la vie chrétienne, c'est-à-dire le pardon des péchés, la connaissance de la divinité, la victoire sur le péché et la parole de Dieu vivant en nous. Parce que les croyants savent que Dieu et sa parole vivent en eux, ils sont prêts à relever le défi lancé par 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. En effet, alors que les versets 12 à 14 contiennent des déclarations affirmatives, le verset 15 commence par un impératif, qui peut traduire un appel ou un commandement « N'aimez pas le monde ».
Et nous voici maintenant à la journée du mardi 28 juillet 2009 qui a pour titre
« Renoncer à tout ce qui est amour du monde ».
Et nous allons lire dans la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15.
N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Et nous continuons avec le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde.
Nous avons quelques textes maintenant à vous proposer. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, le chapitre 15 et le verset 19.
« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Prenons à présent Colossiens chapitre 2, verset 8.
« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » Nous continuons avec l'épître à Timothée, la première, chapitre 6 et le verset 7.
« Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. » Continuons avec Jacques, chapitre 4, verset 4.
« Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et un texte qui continue dans cette journée, c'est Actes 17 et le verset 24.
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. » Le mot grec « cosmos » traduit par « monde » désigne l'univers, la terre, l'humanité, notre sphère d'existence et tout mode de vie opposé à Dieu. Ce mot apparaît plus de 20 fois dans la première et la deuxième épître et la deuxième de Jean. L'apôtre nous dit que le monde a besoin de salut, mais qu'il est hostile à Dieu et à son peuple. Il est au pouvoir du mauvais, et les faux prophètes, les antichrists et les imposteurs en font partie. Il n'y a pas de mal en soi à posséder des biens matériels, mais il faut les partager avec ceux qui sont dans le besoin. Enfin, le monde doit être vaincu. On le voit dans les épîtres de Jean, ce mot « monde » a surtout un sens négatif, parce que le monde est en révolte contre Dieu.
La tension qui apparaît dans les Écritures à propos de notre relation au monde est intéressante à noter. D'un côté, on nous dit de ne pas aimer le monde, et de l'autre, la Bible déclare ouvertement que Dieu aime le monde. Par ailleurs, on nous recommande de ne pas aimer les choses de ce monde, alors que nous sommes exhortés maintes et maintes fois à aimer les hommes. Or, ceux-ci sont bel et bien dans le monde.
Comment percevoir cette tension ? Comment aimer les hommes sans aimer le monde, alors que celui-ci est avant tout composé de gens ? En dehors des êtres humains, n'existe-t-il pas des choses appartenant au monde que nous pouvons aussi aimer ?
Les versets 15 et 16 nous aident à comprendre ce que Jean avait à l'esprit. En fait, il ne dit pas que nous devons haïr les êtres humains ou nous désintéresser de notre planète Terre, mais plutôt que nous devons dédaigner tout ce qui dans le monde peut, si nous nous y attachons, nous empêcher de connaître et de faire l'expérience de l'amour de Dieu. En d'autres termes, nous devons nous tenir éloignés des choses du monde qui nous empêchent d'avoir avec Dieu une relation salvatrice.
Voici pour cette journée. Et maintenant, pour le mercredi 29 juillet, le titre de cette leçon est
« Les problèmes posés par le monde ».
Et nous sommes invités à relire la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde ».
Si le verset 15 constitue une mise en garde assez générale contre l'amour du monde, le verset 16, lui, rentre dans certains détails. Que signifie aimer le monde ? Jean mentionne trois choses. Premièrement, le désir de la chair. Deuxièmement, le désir des yeux. Et troisièmement, la confiance présomptueuse dans ses propres ressources ou, tout simplement, orgueil de la vie. Pour Jean, ces trois éléments ne sont pas du Père, mais du monde. Et pourtant, notre chair, nos yeux et notre vie viennent tous de Dieu. Alors, où est le problème ? Contre quoi Jean nous met-il en garde ?
Le désir de la chair a incontestablement trait aux passions, même s'il ne faut pas le limiter à cela. Le désir des yeux, même s'il est assurément lié à la chair, a trait à quelque chose de plus profond, à nos pensées même, à nos envies, à ce que nous voyons et convoitons. Et réfléchissons à ce que veut dire exactement Jean par cette confiance présomptueuse en nos ressources. Pourquoi est-ce là quelque chose de si mauvais ? Bernard, veuillez nous, si vous nous lisiez Actes chapitre 17, verset 28.
Actes 17, 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. »
Cette notion de confiance présomptueuse ou encore orgueil de la vie implique ici un esprit d'indépendance par rapport à Dieu. Comme si nous étions créateurs de notre vie et que la gloire et l'honneur de nos réalisations revenaient à nous seuls. Par contre, lorsque nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu, que c'est lui qui nous a créés, quand nous réalisons que chaque respiration et chaque battement de cœur, tout ce qui nous appartient et tout ce que nous sommes vient de Dieu, dont nous sommes totalement dépendants, alors là, il n'y a plus de place dans notre cœur pour l'orgueil.
Parce que nous sommes des êtres humains déchus et pécheurs, dont l'existence même dépend entièrement de la grâce et de la bonté de Dieu, des êtres humains incapables de se sauver eux-mêmes de la mort et de la destruction éternelle. Nous devrions faire preuve d'humilité et de modestie et bannir toute forme d'orgueil. Quand le monde était parfait, c'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer. Nous qui vivons dans un monde imparfait, fuyons-le comme la peste. Continuons avec la journée du jeudi 30 juillet 2009.
Qui a pour titre « Un monde éphémère ».
Et là, nous allons lire un premier texte qui se trouve dans la première épître, chapitre 2 et verset 17.
« Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
Le verset 16 nous a fourni la première raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde. L'amour du monde et l'amour du Père sont incompatibles. Mais maintenant, au verset 17, Jean ajoute une deuxième raison. Aimer le monde n'est guère sensé parce que le monde est éphémère. Il est préférable et beaucoup plus judicieux de choisir ce qui dure, car ce faisant, nous-mêmes, nous durerons plus longtemps. Nous vivrons éternellement.
L'humanité est tentée de vivre l'instant présent, de se laisser captiver par le monde matérialiste et de s'attacher uniquement à ce qui se voit. C'est pourquoi Paul déclare, et en cela il rejoint Jean, « Cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. C'est ce qui nous est promis dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. Et il ajoute dans 2 Corinthiens, « Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » 2 Corinthiens donc, chapitre 4, verset 18.
Lisons maintenant quels autres enseignements la Bible nous donne ailleurs concernant le caractère passager du monde et de la planète Terre. Voici encore quelques textes. Tout d'abord, dans le livre du prophète Daniel, le chapitre 2, nous lisons le verset 35.
« Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Nous continuons avec la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12.
Tout d'abord le verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Nous continuons, Dominique, avec les deux autres versets.
Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront.
Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 8, Jean a déjà déclaré que les ténèbres passent. Il utilise maintenant le même verbe pour dire que le monde, lui aussi, est en train de disparaître, avec sa convoitise. Une ère nouvelle a débuté au moment de l'incarnation de Jésus, la lumière. Les choses de ce monde sont en train de passer. Cela devrait être clair pour tout le monde. Aucune solution définitive ne peut venir de la politique, pas dans un monde qui est en train d'expirer, et nous aussi avec lui.
Si le monde meurt, comment survivrons-nous ? Jean nous répond, en faisant la volonté de Dieu. Certes, il est important d'avoir des idées justes en matière de théologie et c'est pourquoi Jean cherche à réfuter les enseignements des faux docteurs et leurs erreurs concernant Jésus et le péché. Mais il est tout aussi important de vivre une vie d'obéissance. La morale est inséparable de la théologie. Mots pieux et doctrines correctes ne suffisent pas. La théologie doit être vécue.
Ne nous installons pas ici-bas au point d'oublier notre objectif éternel. Ne compromettons pas notre amour pour Dieu en nous laissant attirer par des choses et entraîner à des comportements qui sont en opposition avec sa volonté.
Et nous sommes invités à méditer, alors que de toute évidence, rien ici-bas n'est éternel, pourquoi nous est-il si facile de vivre comme si tout devait durer ?
Et nous voici à la journée du vendredi qui termine cette semaine, le vendredi 31 juillet 2009. Et là, nous avons quelques textes à vous proposer. Comme d'habitude, des citations tirées du livre « Tragédie des siècles » d'Ellen White. Et tout d'abord, voici quelques lignes. « Tandis que les âmes périssent faute de la parole de vie, des chrétiens de profession dépensent chaque année inutilement des sommes énormes. On pille Dieu dans les dîmes et les offrandes, tandis que l'on sacrifie à des passions funestes plus d'argent qu'on en donne pour soulager les pauvres ou répandre l'Évangile. »
Le monde s'est abandonné au plaisir des sens. Les foules se laissent entraîner par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais les enfants de Dieu ont une vocation plus sainte. Fondée sur la parole de Dieu, on peut affirmer que la sanctification qui n'engendre pas la renonciation complète aux ambitions et aux satisfactions coupables, n'est pas de bon aloi.
On peut résumer ce passage en disant que l'engagement des chrétiens authentiques revêt un double aspect. Un aspect positif. Ces croyants vivent avec Dieu une relation intime. Ils font preuve d'une obéissance dictée par l'amour. Ils ont reçu la force de vaincre le mal. La parole de Dieu demeure parmi eux et leurs péchés ont été pardonnés. Et maintenant, un aspect négatif. Ils n'aiment pas le monde, ils le rejettent dans la mesure où il est hostile à Dieu et à sa cause.
Et maintenant, pour méditer, nous sommes invités à nous poser les réflexions suivantes. Notre monde est totalement éphémère. Il ne durera pas. Même la science, malgré toutes ses lacunes, nous l'affirme. mais contrairement à celle-ci, la Bible nous offre une espérance.
Certains, s'appuyant sur l'appel de Jean à ne pas aimer le monde, s'isolent le plus possible de ce dernier, se retirent dans des monastères ou dans des communautés radicalement séparées de ce qui est la norme pour le commun des hommes. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Est-ce une bonne chose dans certains cas ?
Pourquoi la victoire sur le péché est-elle si essentielle quand on marche dans la lumière ? Et comment obtenir cette victoire ?
Eh bien, puissons-nous l'obtenir en justement étudiant ces épîtres de l'apôtre Jean. Et nous vous donnons rendez-vous à...
la leçon prochaine.
À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.